Bonjour à tous. La reine Elisabeth II, absente ce matin d'une cérémonie officielle en raison de son état de santé. Elle souffre du dos. La reine comptait faire sa première réapparition publique après son hospitalisation le mois dernier. Nous serons à Londres dans un instant. Un accord sur le fil trouvé à Glasgow. Pour la première fois, la conférence sur le climat s'est attaquée directement aux énergies fossiles, mais les pays du Nord n'ont pas répondu aux attentes des pays du Sud. La flambée de l'épidémie de coronavirus, la France n'est plus épargnée. En Europe, en quelques jours, les chiffres ont viré au rouge. Plus de 14 600 nouveaux cas enregistrés hier. Les non-vaccinés sont de plus en plus pointés du doigt. Invité de ce journal, le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Et puis en rugby, l'équipe de France prépare le choc face aux All Blacks en recevant cet après-midi à Bordeaux la très solide équipe de Géorgie. Coup d'envoi dans une heure. La météo avec une nouvelle dégradation en Méditerranée, grisaille et pluie sur le reste du territoire. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Déçu, ce devait être un moment de soulagement pour les Britanniques. Mais la reine souffre du dos. Elisabeth II, 95 ans, n'a pas assisté aujourd'hui à Londres à la cérémonie officielle du souvenir en hommage aux victimes des guerres et des soldats morts au combat. La reine Elisabeth II est donc très déçue et les Anglais s'inquiètent à nouveau. Sur place à Londres, Laura Calmus.
Cette cérémonie devait être son grand retour, l'occasion pour les Britanniques de revoir enfin leur monarque. Mais moins d'une heure avant le début de la cérémonie, le palais de Buckingham publie un communiqué très court et très évasif, indiquant que la reine avait mal au dos et qu'à son plus grand regret, elle ne pourrait pas assister à la cérémonie. Une cérémonie extrêmement importante pour elle, qui est chef des armées et qui a grandi pendant la Seconde Guerre mondiale. Une absence déjà très remarquée par les Britanniques qui voulaient se rassurer et regarder leur monarque au balcon du ministère des Affaires étrangères, debout, assister à ce service. Cette annulation de dernière minute ravive l'inquiétude sur la santé de la reine, elle qui a déjà passé une nuit à l'hôpital le mois dernier, qui a été vue en train de marcher avec une canne, qui a annulé plusieurs voyages et qui ne s'est pas rendue à la COP26. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Et on reste au Royaume-Uni où la COP26 de Glasgow, après des discussions difficiles et des compromis de dernière minute, s'est finalement achevée sur un accord en demi-teinte. Mais pour la première fois, la conférence sur le climat s'est attaquée directement aux énergies fossiles. Bonjour Jean-Di Dauphin.
Bonjour.
Vous avez suivi cette COP26 en Écosse. Alors, quel changement peut-on espérer dans la lutte contre le réchauffement climatique?
Déjà, ce pacte de Glasgow réaffirme l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle et d'agir plus vite dans cette décennie cruciale. Pour ça, les États s'engagent à revenir chaque année à la table des négociations avec des plans climat plus ambitieux. Jusqu'à présent, cette révision était fixée à 5 ans. Les négociateurs ont aussi finalisé enfin les règles d'application de l'accord de Paris, notamment sur le fonctionnement des marchés carbone. Et pour la première fois, un texte de fin de COP appelle à accélérer les efforts pour diminuer l'utilisation du charbon, même en langage onusien, c'est un signal, même si la formulation a été édulcorée à la dernière minute par l'Inde. Reste à concrétiser les bonnes intentions car pour l'instant, le pacte de Glasgow prend acte aussi que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter.
Et d'un autre côté, Sandy, il y a ce rendez-vous manqué entre les pays du Sud et ceux du Nord.
Oui, ça a été un fil rouge tout au long de la COP. Les pays en développement reprochent aux États du Nord de ne pas tenir leurs promesses d'aide financière face au réchauffement climatique, les 100 milliards de dollars par an, alors même qu'ils ont débloqué d'énormes sommes pendant la pandémie Covid. Autre déception pour les pays pauvres, ils veulent des financements spécifiques pour réparer les dégâts irrémédiables, causés par les ouragans, inondations, sécheresses. Mais comme souvent, ce sujet sensible a été renvoyé à la prochaine COP, c'est-à-dire en Égypte l'année prochaine.
Merci Sandy Dauphin. L'autre grande inquiétude du moment en France et à l'étranger concerne la reprise de l'épidémie de coronavirus. Hier soir, la préfecture du Nord a durci ses conditions d'entrée sur le territoire français, notamment pour les voyageurs non vaccinés en provenance de Belgique. Il faudra désormais présenter un test négatif de moins de 24 heures, une exception pour les chauffeurs routiers et les enfants de moins de 12 ans. Restrictions identiques à la frontière allemande également depuis aujourd'hui. En Europe, l'Autriche s'apprête à franchir une étape encore jamais vue en annonçant un confinement pour les non vaccinés. Hier, Angela Merkel en Allemagne exhortait les personnes non vaccinées à reconsidérer leur choix. en Chine, dernier grand pays à maintenir la stratégie zéro Covid. Le régime est en alerte à la moindre reprise épidémique et à 82 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, la Chine renforce les conditions d'accès à Pékin, même si les contaminations sont très faibles. Correspondance de Pékin avec Valentin Abeille.
La priorité est désormais de protéger la capitale chinoise. Pour rejoindre Pékin, il faudra, à partir de mardi, présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures. Les visiteurs arrivant d'une province ayant recensé un cas de contamination lors des 14 derniers jours seront, eux, empêchés d'entrer dans la capitale chinoise. Pourtant, les chiffres n'ont rien d'alarmant vu de l'extérieur. Samedi, la Chine a recensé 70 cas de contamination et aucun à Pékin. Mais les autorités chinoises ne veulent prendre aucun risque à moins de 2 mois des Jeux Olympiques d'hiver qui doivent se tenir dans la capitale chinoise. Des jeux qui devraient se dérouler devant un public domestique et qui doivent surtout servir de vitrine au monde pour démontrer l'efficacité de la réponse sanitaire chinoise. Dans ce contexte, la politique du zéro Covid est plus que jamais d'actualité malgré les critiques qui commencent à émerger. En dépit d'un taux de vaccination aux alentours de 80%, la Chine reste le dernier pays à garder ses frontières fermées. Pékin, Valentin Abeille, France Inter.
On l'a vu, l'épidémie flambe en Europe et la France n'est plus épargnée. 14 646 nouvelles contaminations hier contre 9 605 nouveaux cas il y a une semaine. La situation ressemble clairement à une cinquième vague, expliqué la semaine dernière le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et ce matin, l'ancien directeur général de la Santé, William Dabb, prévient dans le journal Le Parisien que la France, si on ne fait rien, va se retrouver avec 30 000 ou 40 000 nouveaux cas au 15 décembre. Invité de ce journal, le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille et ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour Philippe Amouyel.
Bonjour.
La France n'est plus épargnée. Est-ce que nous sommes entrés dans cette cinquième vague ?
Nous sommes entrés dans un début de remontée importante des taux, hein, puisqu'on va bientôt atteindre ce qu'on appelle un taux d'incidence, le nombre de cas nouveaux par semaine sur 100 000 habitants atteignant 100. Je vous rappelle que l'alerte est à 50, donc on a clairement doublé les seuils où était la France il y a encore quelques semaines. Donc il est important maintenant, pour stopper cette épidémie, de mettre en place tout ce qu'on peut comme mesures barrières et comme politique de vaccination.
Professeur Amuyel, on parlait de la situation en Belgique, mais ce pays est pourtant un pays bien vacciné et pourtant il est mal classé ou en tout cas dans la catégorie très inquiétante.
Alors il y a trois éléments qui gouvernent un peu la tendance de cette cinquième vague. Le premier, c'est le nombre de personnes vaccinées. Le deuxième, c'est l'âge de la population. Vous pouvez avoir une population jeune ou une population plus ou moins âgée. Et les contacts antérieurs qui ont été entre la population et le virus, c'est-à-dire les infections naturelles. Tout cela détermine le nombre de personnes qui peuvent encore subir une attaque du variant Delta et entraîner potentiellement une vague sanitaire. Un pays comme la Belgique a, d'autre part, ouvert plus vite et plus largement ces mesures barrières. Donc c'est tout cet ensemble qui fait que on est plus ou moins haut dans l'échelle du risque actuellement en Europe. Les pays latins sont relativement bas, les pays nordiques plus élevés et les pays de l'Est à des niveaux extrêmes.
Alors, professeur Amouyel, on le voit maintenant, les personnes non vaccinées sont de plus en plus montrées du doigt ou mises à l'amende dans certains pays. Est-ce qu'un confinement seulement pour les non vaccinés vous semble un moyen de lutte efficace, sachant que la reprise de l'épidémie est principalement portée par les non vaccinés ?
Alors il faut voir que dans la population des non-vaccinés, il y a une population hétérogène. La France a déjà une action envers les non-vaccinés, ne serait-ce que par le pass sanitaire pendant l'été, qui a amené un potentiel de vaccination extrêmement important. Donc reste aujourd'hui, dans un pays comme la France, des gens qui ne se vaccineront pas de toute façon, des gens qui hésitent et des gens qui ne savent pas comment se faire vacciner. Donc je pense que même si on mettait ces personnes en confinement, on récupérerait peut-être quelques personnes qui hésitent encore, mais toutes celles qui sont les plus fragiles, c'est-à-dire les plus âgées, qui ne savent pas vraiment comment se faire vacciner, vers qui on doit aller, là serait à nouveau pénalisé et montré du doigt. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on continue dans la direction qu'on a prise, qu'on continue à vacciner, qu'on continue les troisième dose, qu'on continue à aller vers pour répondre à la question.
Professeur Amouyel, le taux de vaccination en France est tout proche de 75%, mais ça ne suffit pas.
Alors, il est de 75% quand on considère l'ensemble de la population. Il est à plus de 87% qu'on considère les gens qui peuvent être vaccinés. Alors, les enfants, bien sûr, ne peuvent pas être vaccinés. La rentrée des classes a repris. Les températures sont en train de tomber, donc on augmente. Donc, ce qu'il faut, c'est vacciner maintenant ceux qu'on peut vacciner, c'est-à-dire les plus fragiles, ceux qui sont le plus à risque de venir à l'hôpital et dans les services de réanimation pour faire comme on a fait cet été, découpler la montée des cas de la surcharge des hôpitaux.
Alors vous en parliez des gestes barrières, professeur Philippe Amouyel, mais le port du masque et l'aération des pièces restent indispensables aujourd'hui encore et pour toute la période qui arrive.
Oui, bien sûr, même si c'est une période d'hiver, il faut penser à aérer. Le virus se transmet, maintenant on le sait, à plus de 95% lorsque l'on parle, lorsque l'on chante, lorsque l'on crie, par cette espèce de vapeur d'eau qui s'échappe et qu'on voit de mieux en mieux quand la température refroidit. Donc c'est ça qu'il faut éliminer, alors ça flotte dans l'air et ça partira avec un courant d'air et une bonne aération. Il faut penser à le faire souvent, même si aujourd'hui on est sur des températures plus basses. Et si vous pouvez vous équiper, en particulier dans vos lieux de réunion, au niveau professionnel, de petits détecteurs de CO2, ça vous permettra de ne pas oublier d'aérer régulièrement.
Professeur Amouyel, est-ce qu'il faut, selon vous, un rappel de troisième dose pour tous les plus de 30 ans et pas seulement pour les plus de 50 ans ?
Alors, je pense qu'il faut mettre des priorités. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir suffisamment de doses, il faut avoir suffisamment de personnes pour vacciner toutes ces populations. Avant qu'on arrive vraiment au niveau de la crise qui pourrait être aux alentours du 15 décembre. Alors, pas seulement une crise Covid, mais les autres maladies vont arriver. On a une diminution des gestes barrières, on voit plus de grippe, on voit plus de bronchiolite, plus de gastro-entérite. C'est tout cet ensemble qui pourrait agir. Donc, ciblons d'abord les populations qui ont été vaccinées le plus tôt, c'est-à-dire les plus âgées, en particulier les plus de 65 ans, et à partir du mois de décembre ou janvier, il faudra probablement vacciner le reste de la population. Donc on se rend compte maintenant que l'immunité apportée par les vaccins a tendance à faiblir avec le temps, surtout face à un variant comme le variant Delta.
Professeur Amouyel, il nous reste quelques secondes, donc les contaminations augmentent, les admissions en réa, en réanimation progressent aussi, le nombre de décès également, mais il reste limité.
Oui, il reste limité et c'est ça qu'il faut continuer à maintenir avec cette vaccination troisième dose, ces gestes barrières, la responsabilisation de chacun d'entre nous. Et grâce à ça, on pourra lutter contre cette cinquième vague.
Merci beaucoup Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis à l'instant, en Autriche, le chancelier autrichien annonce que les personnes non vaccinées seront donc confinées à partir de lundi, c'est-à-dire demain. Et dans cette lutte contre l'épidémie concernant maintenant le pass sanitaire en France, plus de 3500 établissements ont été contrôlés par la police la semaine dernière pour vérifier s'ils scannaient bien le pass de leurs clients. 35 infractions ont été relevées et elles ont donné lieu à 14 verbalisations. L'exécutif veut tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie. Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté.
Les contrôles vont être renforcés. Le ministre de l'Intérieur a adressé une circulaire au préfet dès cette semaine pour leur demander de renforcer les contrôles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un taux d'incidence élevé. On est à quasiment plus de 40% ces dernières semaines. Certains épidémiologistes disent craindre une cinquième vague. C'est pourquoi d'ailleurs la décision de remettre les masques à l'école a été prise, pour faire en sorte de protéger chacun. Donc oui, il y a davantage de contrôles.
Et il y en aura davantage encore sur les lieux de vacances à Noël. Est-ce qu'effectivement, eh bien, les vacances de Noël, il n'y aura pas de pause ?
Non, il n'y a pas de pause pendant Noël, parce que le virus ne fait pas de pause, le virus ne prend pas de vacances de Noël. Mais moi, je veux dire que l'immense majorité des Français respectent bien les règles.
Marlène Schiappa avec Jean-Jérôme Bertolus. En bref, en politique, cette déclaration en forme d'accusation des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, le maintien du référendum sur l'indépendance le 12 décembre prochain, est une déclaration de guerre, estime Palika FLNKS, l'une des deux principales branches du parti indépendantiste FLNKS, qui souhaite un report à cause de l'épidémie de coronavirus. Et de son côté, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, répète ce matin que le référendum, le résultat, sera légitime. Et puis ce soir, deuxième débat des 5 candidats en course pour l'investiture du parti Les Républicains à l'élection présidentielle. Une seconde confrontation sur BFM TV axée sur les propositions économiques. À l'étranger, élection législative de mi-mandat en Argentine après l'arrivée au pouvoir de la gauche péroniste en 2019. Les Argentins doivent voter pour le renouvellement des sièges du Congrès. Lors du premier tour en septembre, la droite était largement arrivée en tête. Le résultat d'un an et demi de pandémie et de crise économique. Reportage à Buenos Aires, Caroline Vic.
Aujourd'hui, on sort sans masque, les aéroports ont rouvert, la pandémie semble déjà loin, mais les Argentins n'ont pas oublié leur énorme effort pendant les 8 mois de confinement et les conséquences sur leur vie quotidienne. Virginia, 45 ans.
Ils ont pris des mesures extrêmes qui pour moi n'étaient pas nécessaires. Ça a provoqué une avalanche de conséquences, comme par exemple 1 an et demi de classes virtuelles, la fermeture d'industries, des postes de travail perdus. Ça a été un vrai désastre.
L'année dernière, le PIB a chuté de 9% et le Covid a tué 115 000 personnes, soit 0,3% de la population, ce qui s'ajoute à d'autres problèmes plus structurels. Clara, 78 ans.
J'aimerais vivre avec plus de tranquillité au niveau de la sécurité, de l'économie qui va mal. Nos enfants partent à l'étranger, les miens sont partis, il y a beaucoup de corruption, je touche une très mauvaise retraite, j'aimerais bien que ça change.
Aujourd'hui, plus de 60% de la population est vaccinée, le virus a fortement reculé, les premiers signes de la récupération économique se font sentir, mais le malaise est encore présent. C'est ce que les Argentins ont exprimé dans les urnes lors du premier tour en septembre et qui pourrait être confirmé aujourd'hui. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
Et puis un effet imprévu de l'épidémie de Covid auquel on n'avait pas forcément pensé. Le coronavirus a dopé le marché des sextoys qui s'est modernisé. Le sextoy connecté devient une nouvelle tendance. L'objet a même désormais sa journée mondiale. C'était la semaine dernière, le 4 novembre. Et ces objets érotiques high-tech représentent maintenant un marché en pleine expansion, multiplié par 3 en 5 ans, selon une étude américaine. Et le phénomène est aussi français. Reportage dans une boutique spécialisée, Magali Homo.
Ici, vous ne trouverez pas le traditionnel canard en plastique.
C'est plus l'image du sextoy fait dans une vague usine chinoise.
Patrick Prudeau, fondateur de Passage du Désir, depuis 14 ans, il observe l'évolution du marché.
Aujourd'hui, on achète un sextoy qui ressemble dans son packaging quasiment à une enceinte Bluetooth. Donc c'est une manière aussi de le rendre plus acceptable. Parce que ça ressemble au code d'électronique, un produit de consommation courante.
Le design, les couleurs, les fonctionnalités, le jouet coquin fait peau neuve et les clients sont au rendez-vous.
Connecté avec les téléphones qu'on peut activer à distance, c'est ça, c'est quelque chose moi qui m'intéressait. Je trouvais que ça avait un côté vachement excitant et qu'on ne peut pas faire avec des jouets qui ne sont pas connectés.
Connecté ou non, toute une gamme de produits high-tech voit le jour, dirigée de plus en plus par des femmes. Marie Comac, créatrice de la marque Puissante, est l'une d'entre elles.
Bleu ou rose.
On parle d'accessoires bien-être plus que de sextoy.
C'est un peu rond sur le dessus. On a 45% des personnes dont c'est le premier achat et qui nous disent bah merci beaucoup parce qu'en fait j'ai passé le pas et ça permet d'être plus à l'aise à la fois dans sa sexualité mais du coup dans sa vie aussi.
La difficulté pour Marie c'était de trouver des investisseurs. Pourtant loin d'être un secteur de niche, le marché du sextoy nouvelle génération pourrait atteindre 108 milliards de dollars d'ici 2027.
Le rendez-vous sport aujourd'hui en rugby, c'est le match France-Géorgie à Bordeaux dans le cadre de la tournée d'automne et à 6 jours du choc face aux All Blacks. Les Bleus vont avoir l'occasion de se mesurer face à une équipe très solide en direct de Bordeaux et à 40 minutes du coup d'envoi on retrouve Fanny Le Chevestrier. Bonjour Fanny.
Bonjour Frédéric.
Et le public bordelais va avoir les yeux fixés sur 3 joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles en équipe de France et notamment le demi-ouverture de talent Mathieu Jalibert de retour à la maison.
Ah oui, c'est vrai que c'est le chouchou Mathieu Jalibert de ce public girondin, le petit prodige, la pépite effectivement dont tout le monde est fan ici à Bordeaux et qui vient en plus, c'est symbolique, prolonger son contrat avec l'UBB. Donc vous avez raison, tout le monde l'attend ici, tout le monde attend aussi son association avec le Toulousain Romain Tamac pour la fameuse association qu'on a baptisée Jalimac, si cher à Fabien Galthié qui n'a pas trop bien marché contre l'Argentine. On espère que ça va se régler bien sûr aujourd'hui pour contrer la puissance des Géorgiens et surtout se rassurer avant le match dans 6 jours face aux All Blacks. En attendant, on va avoir encore une fois une superbe ambiance ici, Frédéric. C'est rare hein, que les Bleus du rugby se délocalisent. Ce n'était pas arrivé depuis 2 ans et demi. Et là, on attend tout simplement 40 000 spectateurs. Je peux vous dire qu'il y a déjà énormément de monde autour du Matmut Stadium. L'ambiance va être très très belle.
Fanny Le Chevestrier à Bordeaux avant France et Géorgie. Coup d'envoi dans 40 minutes. Et on compte beaucoup sur Jalimac, comme vous l'avez appelé, Fanny, merci. Liberté, égalité, Mbappé, la devise de la République française, revue pour la Coupe du Monde de football de 2018, est toujours d'actualité. Kylian Mbappé, qui a inscrit 4 buts hier soir face au Kazakhstan, signe une performance rare, cela n'était plus arrivé depuis Juste Fontaine en 1958, et avec cette victoire 8-0, la France est d'ores et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar dans un an, et le super héros d'hier soir, Kylian Mbappé, est impatient d'aller chercher une autre Coupe du Monde et une troisième étoile sur le maillot de l'équipe de France.
Le plus important, c'était vraiment la qualif. Voilà, on voulait se donner cette chance de défendre notre titre. En plus, dans le groupe, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont pas joué la Coupe du Monde, donc c'est un rêve. Même ceux qui l'ont joué et qui l'ont gagné, ça reste un rêve inimaginable de jouer une Coupe du Monde pour son pays. On va bien se préparer parce que voilà, c'est une chance unique d'avoir l'opportunité de jouer dans une équipe qui peut la gagner. Et il faut pas gâcher cette chance et il faut continuer à rêver parce que voilà, on veut aller là-bas pour gagner, bien sûr.
Voilà Kylian Mbappé hier soir à l'issue de la rencontre et une autre performance pour Antoine Griezmann qui a inscrit son 42e but en équipe de France. Il dépasse Michel Platini et devient le troisième meilleur buteur de tous les temps en équipe de France derrière Thierry Henry, 51 buts. Et Olivier Giroud, 46 buts. Voilà, après cette avalanche de buts, le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
La dépression située au large de la Sardaigne engendre beaucoup de vent en Méditerranée, vers 80 km à l'heure pour le Mistral, la Tramontane et les rafales de nord-est entre Corse et continent, et un temps instable, pluvieux, orageux, qui a touché dans un premier temps la Corse et qui va progresser en journée vers la région PACA. Les pluies seront marquées sur l'est de la Corse et il va beaucoup neiger entre ce soir et demain sur les Alpes frontalières à partir de 1500 mètres. En marge, le Languedoc et les plaines du Roussillon vont conserver un peu de soleil, alors que partout ailleurs, l'ambiance sera maussade, avec des pluies qui auront tendance à devenir plus fortes ce soir vers les Pyrénées, avec de la neige à prévoir sur la chaîne à partir de 1300 mètres. Les températures de l'après-midi, stationnaires par rapport à hier sur une large moitié nord, vont un peu baisser dans la partie sud, menant les maximales entre 9 et 11 degrés de l'Auvergne-Rhône-Alpes au nord-est, 16 à 18 près de la Méditerranée, et généralement entre 12 et 15 sur les autres régions.
Jean-Michel Golinski de Météo France.